France Inter.
C'est une langue très à part, la langue de Jean-Luc Lagarce. C'est une langue qui est absolument charnelle, absolument sensible, sensuelle. C'est une langue qui se précise et qui s'améliore en même temps qu'elle se dit.
La beauté des chasses au trésor, c'est vraiment la part de rêve qu'on a envie de mettre dedans et qu'on accepte un petit peu de se laisser convaincre par une histoire.
C'est une figure populaire, un comique et comédien aimé depuis une douzaine d'années. La télé a fait connaître son visage souriant, son humour, mais c'est le théâtre qui l'anime. Depuis le collège, il étudie au lycée, puis à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, et depuis, il joue Guibert, Hugo, Madani, Marivaux, Labiche et en ce moment Lagarce au théâtre de l'Atelier à Paris. J'ajoute qu'il a déjà écrit et joué deux seules en scène avec succès. À 37 ans, trône déjà sur sa cheminée. Trois Molières. Enfin, si vous voulez savoir si la moustache lui va bien, allez voir Joli Joli, le film musical de Diastème. Aux côtés de Clara Luciani, il incarne un comédien dans les années 70. Bonjour Vincent de Dienne.
Bonjour Vincent Josse.
Ils sont peut-être pas sur votre cheminée, les Molières?
Non. C'est vrai, il y en a un sur une cheminée, mais chez mes parents. Les autres, ils sont planqués, je sais plus où, dans un coin.
Et les amis de vos parents viennent saluer le Molière.
Voilà, le toucher, faire un vœu et en pensant que ça va se réaliser.
Vincent, vous avez 37 ans.
Oh, ouais, mais c'est vraiment très... C'est imminent à la bascule. Là, j'ai 38 ans dans deux jours.
Ah oui,
ouais.
Le sourire que vous avez à la télé, dans les interviews, vous l'avez aussi dans la vie. Est-ce que vous êtes né joyeux?
Mais oui, je crois, ouais. Mais c'est vrai qu'on me fait souvent remarquer que je suis un garçon souriant.
Ouais.
Mais parce que je crois que j'ai été très bien élevé. Je dois beaucoup à mes parents. Non, mais c'est vrai, mes parents m'ont appris à être très poli, à dire merci, bonjour, s'il vous plaît, à sourire. Et ça me fait de meilleures journées.
En
d'être
tout cas,
de bonne humeur.
Vous aimez les gens souriants parce que votre invité l'est. Il s'appelle Julien Alvarez. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur la Chouette d'Or, ce trophée conçu et caché il y a 31 ans. Vous racontez dans un livre cette chasse au trésor qui dure et qui comporte des rebondissements. Le livre, c'est Chouette d'Or, l'enquête. Et vous avez fondé les éditions du Trésor. Nous irons aussi à Nice, au musée Chagall, découvrir une nouvelle exposition consacrée aux peintres et à la lumière de Saint-Paul-de-Vence. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Jean-Luc Lagarce a mis en scène des pièces classiques, mais aussi ses propres pièces, dont « Juste la fin du monde ». Il meurt du sida en 1995, à 38 ans, et laisse aussi un imposant journal. Depuis quelques années, Lagarce est un des auteurs les plus joués en France. Vincent de Dienne, vous proposez deux rendez-vous de cet auteur étudié au lycée. Il faut préciser, il y a « Juste la fin du monde », que vous jouez avec des petits camarades, sous la direction, la mise en scène de Joanie Berthe, mais il y a aussi « Il ne m'est jamais rien arrivé », qui est une adaptation par vous-même pour la scène de son journal. Le voici, Jean-Luc Lagarce, en 1995.
Ah oui, je tiens un journal, oui. Depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 18 ans.
Pour qui on tient un journal?
Je pense beaucoup pour moi, et puis avec le recul, c'est-à-dire le fait que c'est si long maintenant, que c'est beaucoup, beaucoup de pages et tout ça. Quelque part, il doit y avoir comme un truc qu'on met dans un coffre au cas où, pour qu'on vous lise après et que les gens sachent les choses qu'on leur a pas dit ou tout ça. Mais ça relève plus du domaine de l'intime. Je trouve ça très thérapeutique, d'une certaine manière. Et puis, en même temps, c'est comme une espèce de bilan, pas au jour le jour, mais disons très régulièrement tenu, de ce qui se passe, de comment on le ressent. C'est assez drôle, aussitôt qu'on remet des fois un peu le nez dedans, faut pas trop remettre son nez dedans, mais aussitôt qu'on remet un peu son nez dedans, parce qu'on s'aperçoit combien on a changé d'avis si vite, enfin, des fois, combien les choses qui paraissaient inébranlables ont bougé.
L'auteur de théâtre Jean-Luc Lagarce sur France Culture avec Lucien Hatoun en 95, qui est précisément Vincent de Dienne l'année de sa mort. J'imagine qu'à chaque fois que vous entendez sa voix, il se passe quelque chose, parce que vous le jouez deux fois. Pas tous les soirs, mais quasiment. Ça fait quoi?
C'est marrant parce que c'est devenu un intime en très peu de temps. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'allais jouer Juste la fin du monde et que j'en ai profité pour relire son journal que j'avais déjà lu et que je me suis dit faut absolument faire un autre spectacle, faut absolument jouer sur scène ce journal, c'est devenu... Le journal permet ça. Quand j'ai joué La Biche ou quand j'ai joué Marivaux, j'ai pas connu plus aussi intimement La Biche et Marivaux que je ne connais Jean-Luc Lagarce aujourd'hui. Mais c'est émouvant parce que c'est comme je me suis fait un copain, quoi. Je me suis fait un ami dont un ami. Je me suis fait un ami et un mort. Un ami mort, quoi, en même temps, et c'est un peu bizarre parce que je voudrais vraiment avoir une conversation avec lui maintenant, aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse parler, je voudrais lui poser plein de questions, j'aurais plein de choses à lui demander.
Parleriez de quoi, Vincent De Dienne, avec Lagarce ?
D'amour, je pense, parce que comme c'est vraiment le sujet un peu manquant dans cette vie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de théâtre, beaucoup de culture, beaucoup de spectacles, beaucoup de sexe, beaucoup de rencontres, mais assez peu d'amour finalement. Quand on lit les 1200 pages qui composent son journal, on s'aperçoit que c'est quand même une trajectoire très solitaire, quoi. Donc voilà, puis je sais pas, j'adore ce qu'il dit, effectivement, dès le plus jeune âge, il commence son journal à 20 ans, et dès 20 ans, il est encore à Valentinier, donc dans le Haut-Doubs. Dès le début, il y a la prémonition dans le journal d'être lu un jour, d'être étudié, même d'être étudié. Il dit au lecteur, vous n'êtes pas obligé de donner ce passage-là en commentaire aux élèves de première. Il écrit avec, bon, c'est de l'humour, hein, c'est des blagues, il écrit des blagues, mais quand même, il y a cette préscience d'être un jour un auteur étudié.
Et puis on dit toujours que dans l'humour, il y a une part de vérité.
Ouais, bah oui, alors là, ouais, là c'est le cas. C'est
ce qui est fascinant aussi, c'est que comme Guibert, qui meurt à peu près au même âge, à 36 ans, il laisse une œuvre importante, comme s'ils avaient tous les deux une urgence d'écrire, avant même peut-être d'être malade.
Oui, comme s'il y avait la prémonition que la vie serait courte et qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et qu'il fallait écrire vite et fort et bien, quoi.
Est-ce que ça vous donne cette envie urgente de vivre à vous ? Est-ce qu'ils vous transmettent ça, ces auteurs ?
Mais moi, des fois, je stresse, je me dis, j'espère, parce que c'est vrai que les gens me disent, et je me dis ça, que j'ai quand même une boulimie de travail,
oui.
Mais j'espère que c'est pas ça qui m'attend, j'espère que c'est pas la prémonition que ça va s'arrêter bientôt et qu'il faut avoir fait le maximum de choses.
Vous promets que ce ne sera pas votre dernière interview ?
Ah ouais, j'espère.
On vous retrouve avec votre invité Julien Alvarez, Vincent De Dienne, après une chanson de The Liminianas avec l'écossais Bobby Gillespie. Can't face up to the The Luminianas avec Bobby Gillespie, je le dis à la française, Prisoner of Beauty.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Lui est bilingue, peut-être même trilingue, Vincent Denienne.
Bien sûr, quadrilingue.
Quadrilingue. En tout cas, il parle de Lagarce.
Toutes les langues.
Il parle de Lagarce en ce moment. Juste la fin du monde et Il ne m'est jamais rien arrivé, c'est à Paris, au Théâtre de l'Atelier. Alors, dans Il ne m'est jamais rien arrivé, ce fameux journal que vous avez adapté pour la scène, vous êtes presque seul en scène, pas totalement, parce qu'il y a à côté de vous une dessinatrice qui s'appelle Irène Vigneault,
ouais,
qui dessine les visages des personnes citées par Lagarce. Et donc par vous, et c'est très beau d'ailleurs, ces projections des visages qui apparaissent comme ça, comme si leur fantôme venait vers nous. Vous êtes, vous, debout en pantalon de cuir.
Oui, c'est vrai.
Vous n'avez jamais vu en cuir.
Non, moi non plus, je ne m'étais jamais vu en cuir. Je voulais être en pantalon de cuir, comme une citation un peu de l'époque, et puis des nuits lagarciennes, quoi, parisiennes.
Des nuits fauves.
Des nuits fauves, oui, voilà. Et donc j'ai demandé à Agnès B. si elle avait un pantalon. Elle m'a dit, ah ben oui, c'est le pantalon en cuir que j'avais fait pour Patrice Chéreau, mais je lui en faisais un ou deux par mois parce qu'il les usait à une vitesse vertigineuse.
Je ne poserai pas de questions sur ce pantalon.
Je me suis dit, non mais c'est bon signe, parce que comme Patrice Chéreau est dans le journal de Lagarce, parce que c'est un des marqueurs forts pour Jean-Luc Lagarce, quand il a vu Père Gunt, puis après tous les autres spectacles de Jean-Luc Lagarce, je me suis dit, ah ça tombe bien quoi.
Et vous avez une veste noire et vous êtes immobile quasiment, ce qui sert beaucoup le texte et l'écoute du texte. Ça demande sans doute une concentration assez intense.
Oui.
Cette position.
Oui, c'est vrai. Et à la fois, je me dis, parce que c'est vrai, je me suis dit, comment est-ce qu'on va jouer ça? Est-ce qu'il faut le théâtraliser? Plus que ça, je me suis dit, oh, non, je pense que franchement, il n'y a pas besoin de s'agiter, il n'y a pas besoin de gesticuler. Il faut retrouver la frontalité, je sais pas, ça existe la frontalité, de l'auteur et de son lecteur. C'est-à-dire que l'auteur qui écrit son journal comme ça et de celui qui lit, en fait, ça correspond à la posture un peu du stand-upper, finalement, du mec qui est sur scène, debout et qui parle directement au public. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de s'agiter plus que ça. Et c'est Joanie Baird, le metteur en scène, qui a eu l'idée d'accompagner ça par des dessins en direct de
Bonne idée.
Irène.
Ouais. Bonne idée, on est vraiment avec vous. Comment on choisit des éléments pour la scène, des textes pour la scène à l'intérieur de ce journal, sont quand même deux gros volumes. Il y a presque 20 ans de vie et de récits de vie, de jour, de nuit, d'admiration, parce que c'est quelqu'un qui admirait, ça c'est beau.
Ouais,
c'est un talent d'admirer les autres.
Et
il se nourrissait de ses admirations et puis aussi ses aventures sexuelles, ses susceptibilités par rapport à ses parents.
Enfin,
on a l'impression que tout est dit et qu'il fait de nous ses intimes. Alors comment vous avez sélectionné? Parce que le spectacle dure à peu près une heure.
Une heure cinq. Au début, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un montage, un petit peu un télo, un petit peu. Je me suis dit, il faut que dramaturgiquement ça tienne la route, qu'il y ait machin, machin. Et puis en fait, assez rapidement, je me suis dit, arrête de te la raconter, choisis ce que tu préfères. Ne te laisse guider que par tes goûts, par ce qui te touche le plus, ce qui te fait rire le plus, et tu verras après si ça tient la route, si c'est intelligent, si c'est cohérent, machin. Sois sentimental, quoi, avec cette matière, avec ce journal. Prends que ce que tu préfères, fais ton best-of, comme Patricia Cass fait un best-of de ses chansons, fais un best-of de Jean-Luc Lagarce. Et du coup, il se trouve que ça s'est mis à tenir la route. Et puis je voulais... En fait, il y a tellement de sujets dans ce journal, on pourrait tracer 14 chemins à l'intérieur de ces deux piles, là, de ces deux sommes.
Il y a son amour du théâtre.
Voilà, la vie de sa compagnie, les problèmes d'argent, qu'est-ce que c'est qu'être un metteur en scène et un directeur de compagnie dans ces années-là en province, tout ça.
Je pense à notamment tous les jeunes qui veulent être comédiens ou metteurs en scène, c'est passionnant, ou auteurs.
Passionnant, oui, c'est peut-être un peu désespérant. Mais c'est passionnant, parce qu'on s'aperçoit que ça a été dur, parce que c'est quand même une vie, il a quand même eu du succès vraiment très tard, et encore, il est mort sans savoir le succès qu'il aurait plus tard. Quoi.
Bien sûr, mais il faut dire aussi que ça parle de la province, ce qui est assez rare.
Oui, exactement.
Guibert évoquait surtout sa vie à Paris, ses amours à Paris.
Oui,
on est à cheval entre la province et Paris.
C'est une vie qui... il n'a jamais cessé d'être provincial, hein. Enfin, même quand il est devenu parisien...
Mais il est ni mondain.
Non, voilà, exactement. Il n'a pas
ni
la méchanceté parisienne.
Il n'est pas méchant.
Ouais, c'est vrai. En fait, moi, quand j'ai découvert à l'adolescent, un peu plus tard que l'adolescence, quand j'ai commencé mon école de théâtre à Saint-Étienne, je venais de Mâcon. Je faisais mes études à Saint-Étienne, donc on avait tout. J'étais toujours ramené à mon état de provincial et j'adorais ça. D'ailleurs, moi, j'adore vivre. Je préfère plutôt la province à Paris. On n'a plus le droit de dire province, je crois. D'ailleurs, maintenant on dit région,
mais moi,
ouais.
Je continue à dire province.
Ouais, moi aussi,
on en vient.
Ouais. Et du coup, j'ai trouvé dans Lagarce il a vraiment écrit. Un peu, même dans les pièces, c'est toujours un petit peu souterrain, c'est pas vraiment le thème de son écriture, ni c'est pas un motif flagrant dans son œuvre, mais c'est toujours là, c'est toujours souterrain. Qu'est-ce que c'est qu'être un jeune homosexuel en province, qui veut faire du théâtre, qui veut que sa vie soit riche culturellement, socialement, sexuellement? Qu'est-ce que c'est que d'avoir ce désir-là, cet appel-là, ça, j'ai toujours trouvé ça, moi, particulièrement dans le journal, ouais. Et ça m'a toujours beaucoup bouleversé.
Du désespoir et puis la maladie qui arrive et son regard sur la maladie, en plus de vivre la douleur de la maladie. On est au début des années 90 quand on en mourait et on savait qu'on allait en mourir.
On comprenait rien à ce que c'était.
On comprenait rien et puis ça faisait peur aux autres.
Oui.
Il y a ça, mais il y a aussi de la joie. C'est un homme drôle. Vous disiez, il n'est pas cynique, il n'est pas parisien. On caricaturait à peine le parisien.
Oui, oui.
Mais il est drôle, quoi. Ça a dû vous plaire, parce que vous aussi, vous êtes drôle. Et vous avez dû... Vous en jouez, d'ailleurs. Vous apportez aussi votre comique.
Oui, parce qu'en fait... Mais même dans les pièces de Jean-Luc Lagarce, souvent, quand j'ai vu des mises en scène de Jean-Luc Lagarce, j'avais l'impression qu'on passait à côté de ce truc-là, qui était pour moi très, très tangible dans l'écriture. C'était que c'était drôle. Par exemple, je me souviens que dans Music Hall, qui est une pièce où il raconte une tournée un petit peu pourrie d'une ancienne meneuse de revue avec ses deux boys, qui fait la tournée des centres culturels provinciaux un peu pourris et tout ça machin. Il y avait une réplique qui, moi, me faisait hurler de rire. C'était « J'entrais dans la lumière des projecteurs ». Du projecteur. Ça, je me suis dit, mais ça, c'est hilarant. C'est tellement pourri qu'il n'y a pas des projecteurs, il y a du projecteur. Et je l'ai vu souvent monter comme si c'était une précision poétique. J'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas toujours que c'était vraiment des vannes. En fait, il y a des vannes.
Et ça, vous le faites sur scène et c'est très, très drôle.
Ben ouais, c'est trop bien.
Est-ce que vous pouvez faire un petit extrait du journal ou...
Ah, bah ouais, avec plaisir. Un petit extrait drôle d'ailleurs.
Oui.
C'est la visite de ses parents à Paris. 9 août 1987, Léal, le père tranquille, 15h. Les parents sont venus passer 3 jours à Paris. La Totale, la Tour Eiffel, les 3 étages, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, Beaubourg, le Louvre, les bateaux-mouches, le Forum des Halles, tout. Ne me suis pas emporté une seule fois. Suis resté serein, paisible, prêt à entendre toutes les sottises, c'est le mot qui convient, de ma mère, ses avis péremptoires, son racisme, sa vraie méchanceté sur beaucoup de gens qu'on croise, les gens gros, les gens laids, leurs habits. J'ai écouté les interminables histoires de mon père qui bien souvent reprend exactement l'histoire que vient de raconter ma mère. Pas une fois, il n'écoute. Ma mère parle d'elle et se substitue à moi, à mon père, en toutes circonstances. Elle dit « ma tour Montparnasse, ma promenade », etc. Elle dit aussi à mon père, lisant pendant des heures les menus des restaurants, « tu n'aimeras pas ça, ça tu aimes ». Elle garde les notes. Les additions, pour plus tard. Souvenir. Elle trouve qu'il y a beaucoup de Noirs aussi, et des Arabes, et tous les autres qu'elle appelle des espèces de Libanais. En général, les Pakistanais et les Malgaches.
La preuve, on rit.
Bah oui, hein, c'est trop drôle.
Et vous avez en face de vous un chasseur de trésors. Est-ce que ça vous parle, ce dont on est en train de parler? Est-ce que vous avez déjà vu du Lagarce? Est-ce que vous êtes peut-être un fan de Lagarce?
Alors, j'ai vu...
Julien Alvarez.
J'ai vu la pièce de Vincent, mais donc, l'autre pièce qui se joue également...
À plusieurs comédiens, qui s'intitule « Juste la fin du monde ».
Exactement, alors qui est très... je ne sais pas s'il y a des parties d'humour dans cette pièce ou pas, mais en tout cas, non, mais ça parle forcément... forcément à tout le monde. C'est des sujets de famille, de non-dit, enfin, c'est assez intense. Et avec, en effet, un langage très, enfin, voilà, bah, très, très spécifique à cet auteur. Moi, je trouve, enfin, j'ai trouvé très, très, très fort.
Avec des redites volontaires.
Des changements de temps. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est très perturbant et en même temps, c'est, ouais, non, mais c'est très fort. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé.
On va parler de la raison de l'invitation, de votre invitation par Vincent de Dienne, mais je voudrais qu'on démarre tout de suite sur cette chasse au trésor.
Pour cet animal-là, il n'endorme plus la nuit. Se friture les méninges à n'en plus finir, font de savants calculs, tourne et retourne les phrases mystérieuses des énigmes de Max Valentin. Obsession, fascination, douce folie chez les chercheurs de la chouette d'or. Alain cherche depuis un an environ 10 heures par semaine. Rien ne pourrait le faire renoncer.
J'ai pas un moral de vaincu, donc je baisserai pas les bras. Par contre, je pense qu'il faut être assez rationnel et très proche du livre. C'est pas le million de francs que ça représente, c'est le jeu, c'est une passion, donc ça j'arrêterai pas.
L'opération est aussi commerciale. Entre la vente du livre, environ 20 000 exemplaires, un serveur Minitel et même une boîte vocale, Max Valentin gagne de l'argent.
Tous les indices sont dans le livre. De toute façon, le jour où quelqu'un la trouvera, il sera bien obligé de dire comment il l'a trouvée. La chouette est enterrée, je le certifie absolument.
Voilà, on est en 1994, Julien Albarès. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui se passe? Ce monsieur Valentin a fait quelque chose de génial. Il a enterré une chouette d'or.
Tout à fait.
On la trouve ou pas avec un livre d'indices.
Oui.
Il y a 11 énigmes.
C'est ça.
Et si on la trouve, on a plein d'argent.
Alors, on a cette fameuse chouette d'or qui valait à l'époque 1 million de francs, donc 150 000 euros. Et tout ça a été lancé en 1993, donc il y a bientôt 32 ans. Alors, il s'avère que cette chouette a été trouvée. Là, il y a eu un petit rebondissement au mois d'octobre 2024. Sinon, c'était devenu la chasse au trésor au niveau mondial quasiment la plus longue.
Au niveau mondial.
Voilà, exactement. Et donc, ça a déchaîné les passions parce qu'évidemment, il y a eu des générations de chercheurs, de chouetteurs, comme on les appelle.
Des chouetteurs.
Qui ont cherché donc ce fameux volatile.
Et vous en êtes un de chouetteur?
Alors, j'en ai. Je ne sais pas si je parle au passé ou pas, vu qu'elle a été trouvée depuis.
Mais c'est sûr qu'elle a été trouvée.
Alors, elle a été trouvée officiellement. Mais je connais beaucoup de chercheurs qui continuent à la chercher, qui pensent que...
Parce qu'on avait dit, c'est pas sûr que ce soit la vraie.
Alors, en fait, les solutions n'ont pas été dévoilées encore. L'identité des découvreurs n'ont pas été donnée non plus. Et donc, il y a une frange, on va dire, des chouetteurs qui continuent à chercher.
Vincent de Dienne, pourquoi ça vous passionne, cette chasse au trésor?
Ah, mais parce que ça me passionne depuis que j'ai... Déjà, ce type, Max Valentin, j'étais abonné à Sciences et Vie Junior à l'époque, et il avait écrit une chasse au trésor pour les petits, et je l'avais faite. Et je m'étais dit, mais un jour, je vais vivre cette chose extraordinaire d'aller quelque part en France, en forêt, creuser et trouver un coffre au trésor. Mais ça, moi, je veux absolument vivre ça un jour dans ma vie.
Je vous vois avec une pelle en Picardie.
Vous avez une vision? Et bon, je ne l'ai pas trouvé, cette chasse-là.
Ah non, vous ne l'avez pas cherché?
Si, je l'avais faite, celle-là. Oui, ouais, j'avais fait suer toute ma famille. On passait des heures et des heures à décrypter les énigmes. C'était merveilleux. Et donc, je me suis passionné après pour l'autre chasse au trésor de ce type, la chouette d'or. Et je trouve que franchement, à une période, mais c'est pour ça que j'étais trop content d'inviter Julien, dans un monde qui quand même se déglingue à une vitesse extraordinaire, où la bêtise, la guerre sont partout. Quoi. On a l'impression qu'on est en train de quand même plonger vraiment à l'œil nu.
C'est notre menu quotidien.
Mais oui, c'est ça. Tout devient vraiment terrifiant très vite. Et on a l'impression surtout que les méchants ont vraiment énormément de pouvoir, là, en peu de temps. Donc, c'est quand même réveillé récemment avec un salut nazi de l'homme le plus puissant du monde. C'est quand même fou, quand même. Ouais. Et on est tous un peu paralysés, comme ça, comme si on était des lapins dans les phares d'une voiture.
D'où l'importance, période... Vincent, effectivement, de projets fous comme notre chouetteur ici à table.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de me dire qu'il y a des gens qui cherchent des trésors, d'autres qui en enterrent, qui enquêtent là-dessus, qui cherchent les trésors, quoi. Faut chercher les trésors dans tout, quoi. Dans la littérature, dans la vie, dans ces amis, dans les sourires des gens. Enfin, vraiment, il faut redoubler d'énergie à ce niveau-là, parce que sinon, c'est l'enfer, quoi.
Et vous connaissiez Julien Albarès?
En fait, comment on s'est rencontrés déjà?
Eh ben, alors, en deux temps. En fait, tu as parlé de... Tu étais chercheur d'une de nos chasses, et tu en as parlé sur un média belge, je crois. Et mon éditrice, un jour, me dit « Vincent de Dienne cherche une de nos chasses au trésor ». Alors, c'était... complètement incroyable. Bon, bref, voilà. Et donc, plusieurs mois sont passés. Et puis ensuite, tu as écrit un petit mail très gentil après avoir acheté ce livre sur l'enquête
sur la chouette d'or. Ouais,
parce que c'est sous les yeux, là.
Franchement, c'est une enquête passionnante. C'est génial. Il y a vraiment 1000 rebondissements. Enfin, là, on peut pas tous les énumérer maintenant. Mais donc, ce type qui a enterré une chouette quelque part en France un jour,
avait sans doute mal calibré la difficulté de sa chasse et qui fait sûr. Qu'elle a été cherchée pendant 30 ans. Lui est mort entre temps. La chouette a failli se vendre à Drouot. Enfin, il y a eu,
plein de rebondissements. Il y a eu pendant des années en fait. C'était plus un jeu organisé en fait. Il y a eu vraiment tout le monde cherchait. On savait plus si la chouette était vraiment là ou pas. Enfin, il y a eu énormément de péripéties. Il y a eu des actions en justice. Donc, c'est devenu une saga en tant que telle.
Ouais, mais bon, c'est un livre. C'est une saga ce livre.
Complètement. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait.
Elle a été retrouvée où?
Alors, on ne sait pas. On ne sait toujours pas.
Ah, oui.
On le saura au mois d'avril. Et donc, on aura peut-être enfin l'épilogue de cette saga, justement.
De 32 ans.
De 32 ans.
Pourquoi avril?
Alors, c'est la date anniversaire de l'enfouissement. Et donc, l'organisateur du jeu souhaite annoncer ça, cette date clé, sous la forme d'un documentaire. Voilà. Donc, il a fait ce choix-là. Les chouetteurs sont évidemment impatients de savoir où c'était, quelles étaient les solutions, est-ce qu'ils étaient proches, pas proches, évidemment, voilà, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotionnel et de passion quand il était mis là-dedans. Faut imaginer, un roman, une pièce de théâtre, enfin, quelque chose qui nous passionne et avec lequel on vit depuis, pour certains, plus de 30 ans. Donc c'est vraiment, il y a un engagement émotionnel qui est incroyable là-dessus.
Oui, et puis comme le temps a passé, moi, Julien m'a emmené à ce qu'ils appellent la chouette fête, c'est-à-dire c'est un rassemblement tous les ans des chouetteurs, donc des gens qui cherchent la chouette, qui se rassemblent une journée pour faire une petite chasse au trésor, et pour passer du temps ensemble et pour mettre en commun un petit peu leurs solutions, là où ils en sont, s'aider quoi, dans cette chasse. Parce que maintenant, comme le temps a passé, l'angoisse, enfin, c'était de ne jamais la trouver et c'était plus la compétition quoi, qui était en jeu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, c'est une des meilleures journées de ma vie parce que j'ai vu des gens qui cherchaient donc cette chouette depuis 30 ans, qui ont vu certains d'entre eux mourir parce que le temps a passé, vraiment des gens qui se sont vraiment aussi un peu abîmés dans cette chasse au trésor, qui ont perdu des amis, qui ont perdu des qui
à cause sont de leur obsession fous,
quoi. À cause de cette obsession.
Ah ben bien sûr, c'est complètement obsessionnel en fait. Et donc, en effet, comme dans toute obsession, il y a du bon, mais derrière, il y a eu des gens qui sont séparés. Il y a eu, enfin c'est un sujet compliqué. Hein.
Et ce n'est pas terminé s'il y a des gens qui pensent que ça n'est pas la vraie chouette qui a été trouvée.
Exactement. Il y a des gens qui passent encore des heures tous les jours à chercher la chouette numéro 2, on va
dire. Je sens que Vincent Dedienne va reprendre sa pelle.
Ben moi, je l'avais un peu cherché, mais j'étais, franchement, si je pouvais, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un confinement, un deuxième confinement, et que je m'enferme dans une maison pendant combien de temps il a duré le premier confinement?
Plusieurs mois.
Que je m'enferme avec des copains et qu'on se mette à la chercher vraiment, ou à chercher les chasses au trésor que Julien édite avec sa maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Trésor.
Ah oui, c'est vous qui avez fondé ça.
Ouais. Absolument.
On va continuer de parler avec vous deux, Vincent Dedienne et Julien Alvarez, mais je voudrais qu'on écoute une amie, j'allais dire, de France Inter, mais aussi de Vincent Dedienne. Elle va sortir un disque en avril.
Ah, c'est Jeanne Chéral.
Oui.
Ouais, gagné. Trop bien.
Bravo.
C'est quoi comme chanson?
Jean.
Ah, mais c'est la nouvelle.
Oui.
Ah, trop bien.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, Jean. J'en ai connu des plus beaux que vous, Jean. J'en ai connu, mais ils n'étaient pas vous. Jean, j'en rirai. La ligne de
Jeanne Chéral et la chanson n'est pas encore sortie, que Vincent de Dienne la fredonne.
Ouais, moi c'est un tube. Ça va être un gros tube.
C'est vrai?
Croyez-moi.
Le disque est réalisé par Benjamin Biolay.
Ouais, ouais. Et c'est franchement, c'est une merveilleuse... C'est une fille extraordinaire, Jeanne. Et c'est une chanteuse, une parolière et une compositrice de talent. Vraiment.
Elle sera au Printemps de Bourges en avril.
Mais sans doute, Vincent.
Et vous irez.
Et puis elle sera à l'Olympia, je crois. Et elle a rempli le Théâtre des Abbesses aussi, le Théâtre de la Ville.
À Paris.
À Paris, en une journée, je crois. Ouais.
On sent que vous l'aimez.
Je l'adore.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Julien Labarrès, depuis l'enfance, vous êtes passionné par les chasses au trésor, par les... Finalement, vous êtes resté un enfant qui joue.
Ben c'est ça. Je pense qu'on a tous un peu cette petite part en nous, alors plus ou moins enfouie. Il y a des gens chez qui c'est très très enfoui, mais non. Moi, je pense qu'on a ce besoin de rêver, on a ce besoin de se projeter dans des choses romanesques. Enfin voilà. Donc et oui, clairement, peut-être chez moi, c'était peut-être un peu plus fort que chez d'autres.
Vincent de Dienne, pareil, quand vous avez les yeux là pleins de lumière,
les
yeux qui brillent quand vous évoquez la chasse au trésor.
Ben, les énigmes, comme dans La Chouette d'or ou comme dans les livres, dans les chasses que publie Julien, c'est vraiment... Déjà, moi, ça me passionne, mais je suis persuadé qu'on se fait du bien au cerveau aussi. Moi, j'ai l'impression que quand je fais des jeux de société, je fais énormément de jeux de société, mais aussi donc ces énigmes, ces chasses au trésor, je suis sûr que je me prépare un cerveau de vieillard un peu d'aplomb, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, je compte là-dessus. Et puis, de toute façon, tout ce qui nous éloigne de nos écrans, de nos téléphones et de notre solitude, parce que c'est quand même le jeu de société ou les chasses au trésor, c'est des choses un petit peu... On le fait ensemble avec des copains, vous voyez, on met nos méninges en commun, quoi. Tout ce qui nous fait faire société est bon à prendre.
Vous diriez ça aussi, Julien ?
Ouais, oui, complètement. Non, mais après,
parce que ça peut être aussi une chasse solitaire.
C'est vrai. Bah, y a vraiment, nous, on observe ça dans les chasses qu'on organise. Il y a deux façons de le faire. On a vraiment les loups solitaires, les gens qui le font tout seuls. Et en effet, il y a une logique de partage, de travail en équipe, alors qu'il peut se faire au travers même des réseaux, des forums et autres. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui partagent toutes leurs solutions. C'est assez, gratifiant quand on trouve un petit bout de solution. Je pense qu'il y a une vraie petite décharge un peu d'endorphine, enfin de quelque chose qui est physique. Hein. Je pense que c'est équivalent à d'autres choses très plaisantes. Donc oui, il y a vraiment un truc qui se passe qui est de l'ordre chimique, je pense.
Quand j'ai rencontré Julien, c'est la première fois, je me suis dit, bon, soit je suis tombé sur un grand mythomane, soit je suis tombé sur un type en or, parce que t'es vraiment allé chercher des trésors.
Ah, à titre perso, tu veux dire ?
Ouais.
Ouais, j'en parle un peu moins en général, mais
Non, mais
la maison d'édition, en fait, nous on est sur des chasses au trésor organisées, mais on parle aussi beaucoup de chasses, on va dire, au trésor, enfin de trésors historiques, réels, les trésors des Incas, des choses comme ça. Et moi, à titre perso, c'est vrai que j'aime bien aller me balader en forêt vierge avec ma machette, faire des petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu mon précaire.
On le fait pas, nous, Vincent, vous voyez, par exemple. Hein, on va
Qu'est-ce
pas
que
en forêt vierge avec des machettes.
C'est vrai, on a peur de se blesser.
Ah ouais.
Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un chapeau de paille d'Italie.
Oula.
Spectacle qui a eu du succès, qui a été joué, entre autres, par Vincent de Dienne et qui a été mis en scène par Alain Françon.
Je comprends, c'est pour faire pendant un soulier.
Quel soulier? Quel soulier?
Soyez tranquille, monsieur, ce chapeau, demain, je vous l'enverrai.
Non, tout de suite! Tout de suite!
Vincent de Dienne. La musique de Fossett Harton.
Oui!
Ouais. Et c'était la voix d'Emmanuel Bouzerolle que j'adore.
C'était là aussi un spectacle collectif, si je puis dire.
Ah ouais, même très très collectif. On était, je crois, 22... on était 22 plus 11 techniciens en coulisses, habilleurs, costumiers, perruquiers. C'était vraiment une énorme troupe. Ça devient rarissime des spectacles avec autant de gens. Et ça, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable.
C'est rare parce que c'est cher et qu'il faut faire des économies partout.
Oui, et puis que les producteurs de spectacles veulent gagner souvent plus d'argent que ça. Donc ils préfèrent produire des spectacles avec 1, 2 ou 3, 4 acteurs. Plutôt que des troupes entières. Quoi.
C'est un rôle fascinant, j'imagine, à jouer. La biche, de toute façon, c'est fascinant pour un comédien. C'est ce qu'on appelle une matière de jeu, matière à jeu.
Ouais.
Et vous courez, vous chantez dans ce spectacle, vous nous faites rire. Enfin, et puis, c'est assez émouvant aussi, par moments. En tout cas, Françon a cherché aussi une certaine mélancolie, par instant.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'était un énorme registre à trouver et à jouer.
Ouais, c'est. Enfin, je me suis pas rendu compte en fait en le faisant. J'ai vraiment l'impression. Pour moi, c'était travailler avec Alain Françon. C'était. J'aurais pu ne jamais. Je l'ai dit souvent, mais c'est vrai. J'aurais pu ne jamais le jouer, le spectacle. J'aurais pu ne faire que le répéter. C'est-à-dire, on aurait pu passer les six semaines, un peu plus de six semaines, à répéter. Et j'aurais pu faire ça pendant un an.
Pourquoi?
Chercher, travailler. Parce que. J'ai eu l'impression de retourner à la fois à l'école et à la fois en cours de récréation. C'est-à-dire que je me suis énormément amusé. Et puis, j'ai été au contact d'un maître, quoi, d'un grand homme, d'un esprit, d'un expert, d'un savant de la mise en scène, de l'espace.
Alain Françon, qui a fait toute une carrière non subventionnée, même si là, il était dans le privé, à la Porte Saint-Martin à Paris.
D'ailleurs, c'est assez émouvant dans le journal de Lagarce. On voit tous les spectacles que Lagarce voit d'Alain Françon et en fait, il les aime tous, quoi. C'est fou. Et il voit le début de Dominique Valadier, cette actrice qui a beaucoup joué et qui joue beaucoup avec Alain Françon et d'autres. Et à chaque fois, c'est des mots d'amour de Lagarce sur ses. Et d'ailleurs, il parle d'un chapeau de paille d'Italie aussi à un moment. Mais oui, c'est un homme. J'ai eu l'impression que. Et je voyais. Il le faisait avec moi, mais il le faisait avec tous les membres de la troupe. Je voyais qu'il prenait les acteurs. Et qu'en leur disant très peu de choses, il les transformait il les améliorait, quoi. Je sais pas comment dire, il nous a fait progresser à une vitesse. Moi, j'ai vraiment l'impression de plus du tout être le même comédien qu'avant.
Mais c'est drôle parce que je le pense aussi. Alors, on s'en moque un peu de mon avis, mais je vous ai vu avant. Pendant et après, chez Lagarce aujourd'hui, et je sens que Françon est passé par là.
Ah ouais,
c'est-à-dire que vous avez progressé vraiment dans votre présence et dans votre jeu.
Oui, parce qu'en fait, moi j'ai quand même appris ce métier à l'école, mais c'était entre 2006 et 2009.
À Saint-Étienne,
qui est une excellente école d'art dramatique.
Vous avez eu plein de profs passionnants.
Plein de profs extraordinaires, des stages, des metteurs en scène. Je suis même allé avec un type qui s'appelle Jean-Paul Delors, il nous a emmené au Mozambique et en Afrique du Sud, travailler, jouer avec des auteurs et des acteurs sud-africains et mozambicais. Donc, mais je veux dire, une fois qu'on sort de l'école, après, on arrête un petit peu d'apprendre. Enfin, je sais pas comment dire, on apprend moins, quoi. Ou alors, il faut faire des stages, mais je veux dire, l'école est finie quand même. Et là, avec Françon, j'ai eu l'impression de...
De retourner au bon sens du terme à l'école.
Exactement, ouais. De toute façon, on devrait tous être mus par l'idée de s'améliorer, de devenir des gens meilleurs. Bon, c'est pas toujours
Julien Alvarez, faudrait que vous trouviez plus de trophées.
Oui.
Et il y a un lien entre vous aussi, c'est la chasse au trésor. Vincent Dedienne a toujours dit, quand je cherche le sens d'un texte, j'ai l'impression de faire une sorte de chasse au trésor.
Oui,
c'est marrant le parallèle.
Ouais, je me l'étais jamais dit. Mais dès l'école, je me souviens que mes profs de français, mes profs de théâtre et tout ça, nous faisaient étudier les textes, la littérature, comme s'il y avait quelque chose à trouver dedans. Mais même, je me rappelle d'une prof qui s'appelle Madame Lambolaise, au collège, qui nous avait fait étudier la chanson de Souchon, Tailler la zone. Et on l'avait vraiment étudié, strophe après strophe, toutes les phrases, les mots choisis, les verbes et tout ça. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un trésor à trouver à l'intérieur. Et oui, c'est vrai qu'on a ça en commun.
Ouais, le sens caché des mots, la quête... qui peut devenir obsessionnel, mais parfois aussi pour le meilleur et pour le pire.
Comment vous gérez votre obsession, vous,
Je ne sais pas si ça peut se gérer.
Vous êtes un obsessionnel.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai des tunnels de passion. En fait, pendant six mois, je me passionne pour quelque chose. J'achète tous les bouquins sur le sujet. Je délaisse un peu des choses. Je le gère comme je peux. Je pense que ce n'est pas forcément... Je ne sais pas s'il y a une méthode.
Les éditions du Trésor que vous avez créées, fondées, il n'y a pas que la chouette d'or, l'enquête comme livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que vous préemptez, si je puis dire, comme manuscrit.
C'est ça. Alors, en fait, nous, on est spécialisés sur tout ce qui est non-fiction. Donc, en fait, c'est soit des récits d'aventures, de voyageurs, de l'extrême ou pas, d'ailleurs, à la première personne, soit des essais sur des thématiques un peu connexes, les femmes pirates, des choses un peu exotiques. Donc, on est autour du voyage, de l'aventure. On essaye de faire rêver les gens, comme disait Vincent, dans des moments un peu compliqués. On trouve que c'est l'imaginaire, c'est important d'embarquer les gens dans des choses sympathiques, exotiques. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses réelles qui existent autour de ça et qui permettent de faire voyager les gens. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire.
On écoute un peu de musique. On a réfléchi avec Valentine Chedebois à ce qu'on pouvait trouver sur les années 90, l'époque de Lagarce, de Guibert. Et on s'est souvenu que Chéreau et Grégory dansaient au milieu des années 90 dans la solitude des champs de coton de Coltès sur du Massive Attack. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. No lines say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sort of cools my temper. It never cools my temper.
walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma.
Vous êtes bien sur France Inter dans le grand atelier de Vincent Dedienne. Je vous propose de nous rendre à Nice, au musée Marc Chagall. Nouvelle exposition du 8 février au 5 mai. Chagall, dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence. Et je salue Anne Dopfer. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous dirigez les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes et vous êtes commissaire de cette exposition. Chagall s'installe à Saint-Paul-de-Vence en 1966. Il y vivra et peindra jusqu'à la fin de sa vie en 85. Ce sont les œuvres de cette ultime période de la vie de Chagall que vous exposez ?
Absolument. En fait, la Côte d'Azur a été le grand atelier de Chagall dans la dernière partie de sa vie, de 1949 à 1985. Donc 36 ans passés dans la lumière de la Riviera, de la Côte d'Azur, qu'il avait découverte avec émerveillement. La lumière, bien sûr, comme tant d'autres artistes, Chagall, Picasso, Matisse, par exemple. La lumière, les fleurs, les marchés aux fleurs, c'est une vraie passion. La couleur s'incarnait par les fleurs et le bouquet de fleurs devient un symbole, en fait, du don de la vie, un symbole de joie de vivre. Et Chagall, dans cette région, va aussi trouver des amis, artistes, bien sûr, puisque c'est une région qui a attiré beaucoup d'autres artistes, mais également des gens avec qui il va nouer des relations, et en particulier, il va se nourrir des savoir-faire méditerranéens, que sont, par exemple, la mosaïque ou la poterie, qu'il va pratiquer dans ces années-là.
Donc il est toujours prêt, même âgé,
à découvrir et à se mettre à de nouvelles pratiques.
Absolument. Il essaye de trouver dans chaque matière la lumière particulière qu'elle a et les messages qu'elle peut faire passer. Et là, nous avons souhaité, à partir de nos collections, faire un focus sur une technique qu'il a beaucoup pratiquée, qui est la lithographie. Absolument. Il a appris cette technique en 22 à Berlin, mais en fait, il s'y est remis qu'en 1950, lorsqu'Aimé Mag lui a demandé d'aller dans les grands ateliers de lithographie parisien Fernand Mourlot, pour faire la lithographie. Et là, Chagall découvre un monde d'ouvriers qui n'a quasiment pas changé depuis le 19e siècle. Et il se prend de passion pour cette technique, qui est une technique qui permet de faire des multiples. Donc on dessine sur une pierre. Et c'est très facile comme technique, parce qu'on utilise les mêmes outils, un pinceau, un crayon. Donc il dessine. Et ensuite, il y a la partie complexe qui est le tirage. Et ça se fait avec des ouvriers lithographes, des chromistes, des ouvriers imprimeurs. Et Chagall adore passer des journées entières à surveiller le tirage, à donner les orientations.
On parlait avec Vincent Dedienne et Julien Alvarez du plaisir de travailler ensemble, de la communauté. Finalement, Chagall devait éprouver ça aussi.
Absolument. Il adorait cette relation avec les maîtres d'œuvre. C'est aussi une période où il fait des grandes commandes monumentales pour New York, pour Paris, le plafond de l'Opéra. Et il travaille toujours à plusieurs. Et Chagall aime cette relation très technique, très artisanale, très exigeante aussi, ce dialogue.
Et vous avez pu, vous pouvez exposer les lithographies en question, un certain nombre ?
Oui, alors ça, c'est un fonds important qui nous a été donné par son ami chromiste, qui travaillait chez Mourlot, Sorlier, et on a des fonds très importants. Il est vrai que les papiers, il ne faut pas les exposer plus de 3 mois d'affilée, et qu'ensuite on ne les montre plus pendant 3 ans.
Ah, pourquoi ?
Mais on fait parce que c'est une question de conservation, en fait, du matériau papier.
D'accord.
Le papier, chimiquement, se déstructure au contact de la lumière.
Ah, voilà. D'accord.
Et donc, nous faisons très attention au niveau d'éclairement. On éclaire assez bas les papiers, et puis on s'impose cette règle. 3 mois dans les salles, 3 ans au noir.
Et 3 ans dans l'obscurité.
Voilà. Donc on fait des savants calculs. Mais notre rôle, le premier, on est les conservateurs,
oui.
C'est de conserver et de transmettre aux générations futures ce patrimoine.
Est-ce que ces lithographies ont les mêmes thèmes que ces toiles ? C'est quelqu'un qui a peint le cirque, c'est quelqu'un qui a peint le couple, l'amour, le désir.
Absolument.
Est-ce que tout ça se retrouve sur les lithos ?
C'est très juste, oui. Chagall est quelqu'un qui reprend les mêmes motifs, mais qui les réinvente au fil du temps. Donc les thèmes que vous évoquez, mais je peux aussi citer le thème de l'autoportrait, l'exposition commencera sur une série d'autoportraits, il les travaille différemment qu'il ait 30 ans ou qu'il ait 80 ans, et donc c'est assez fascinant, et dans l'exposition, on montre essentiellement des choses récentes, mais on a tenu à mettre quelques œuvres très anciennes en référence pour voir l'évolution, et en fait c'est quelqu'un qui va vers qui a une maîtrise formidable, mais qui va vers des moyens très simples, par exemple un dessin qui semble presque naïf, presque hésitant. Chagall est quelqu'un qui dessine très bien en réalité, et à la fin de sa vie, dans ses lithographies, on sent qu'il veut transmettre la vibration de la vie, en fait, et qu'un trait repris plusieurs fois, c'est comme des battements de cœur, c'est comme une variation de la lumière naturelle, à peine perceptible, mais qui fait toute la richesse de nos vies.
La lumière de Saint-Paul de Vence, puisque c'est de ça qu'il est question, elle a quelque chose de particulier que vous sauriez décrire à travers les œuvres de Chagall ? C'est une question, Anne Dopfer, difficile que je vous pose.
En effet, mais...
Lancez-vous.
Je me lance. La lumière du Sud, bien sûr, c'est une lumière éclatante, c'est une lumière qui met en relief les couleurs. Et dans le fond, dans la fin de sa vie, Chagall va aller d'une part vers une voie qui est un petit peu évanescente, une voie qui se rapproche de la lumière naturelle, dont je parlais un peu plus tôt, avec des couleurs claires, avec une espèce de synthèse et de légèreté. Mais dans la même période, c'est quelqu'un qui se réinvente constamment et qui, dans sa peinture, par exemple, ne va pas hésiter à faire des tableaux qui sont quasiment noirs, avec des taches de couleurs inspirées par les travaux qu'il a fait en vitrail, vous savez, où les zones colorées sont très délimitées.
Il a fait pas mal de vitraux.
Il a fait 15 projets de vitraux absolument formidables que je vous recommande, dont le vitrail de la création du monde qui se trouve dans la salle de concert qu'il a voulu pour son musée. Puisque le musée national Marc Chagall est en fait un musée conçu du vivant de Chagall.
Ce qui était une première à l'époque. Hein.
Voilà, le premier musée national consacré à un artiste vivant, c'était une façon de reconnaître l'art contemporain. Et Chagall a activement participé. Et il y a une ambiance particulière qui flotte en fait dans cet endroit. Il disait d'abord qu'il ne voulait pas faire un musée, mais une maison.
Oui.
Donc cette intimité-là de la maison, elle est là. Cette présence spirituelle, elle est là dans ces salles qui sont pas très grandes, mais où on découvre le merveilleux cycle du message biblique, qui est, à la fin de sa vie, un cycle testamentaire, un message d'amour qui veut livrer à l'humanité.
Elle est où, cette maison?
À Saint-Paul-de-Guerre? À Nice. Non, je faisais une comparaison en disant, il voulait pas faire un musée, mais une maison. Mais en réalité, c'est un musée qui a, disons, les dimensions et l'intimité d'une maison.
Voilà. Et il y a une salle de concert dedans?
Et il y a une salle de concert merveilleuse, de 230 places, éclairée par de grands vitraux bleus qui baignent l'ensemble de l'espace. Et c'est, pour moi, le plus beau cadeau qui nous est fait, parce qu'en fait, c'est un lieu de partage. C'est un lieu du spectacle vivant, c'est un lieu de la musique, c'est un lieu de la danse, et donc c'est un régal.
Vous ne connaissez pas Vincent Dedienne, il est en train de penser à un projet pour le musée Chagall.
Je vous envoie une note d'intention dans l'après-midi.
Il ne se repose jamais. Ça vous arrive d'avoir des journées off?
Ça m'arrive, ouais. Je suis un grand glandeur aussi.
Vous promenez votre chien?
Ouais, je promène mon chien, je joue, je fais des... J'adore les puzzles. D'ailleurs, j'ai une proposition de... J'aimerais bien faire une expo, parce que je suis incapable de défaire mes puzzles.
Ah oui.
Je ne comprends pas les gens qui font des puzzles et qui les défont.
Mais vous les mettez où?
Ben, je les encadre tous. Je les colle et je les encadre. C'est vrai, malheureusement.
Et à côté, c'est moi qui les fais.
Ouais. C'est ça. Et j'impose aux gens qui viennent à la maison, je leur montre, je leur fais la visite.
Vincent Dedienne, paraît-il, est très difficile à vivre. Chagall, revenons à notre Chagall, dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence. C'est à Nice, donc dans la maison Chagall, au musée Chagall. Ça commence le 8 février, ça s'achève le 5 mai. Vous nous avez donné très envie, Anne Dobfer, je vous remercie.
Merci à vous.
Vincent, est-ce que vous avez un conseil dit culturel à nous donner? Est-ce qu'on va lire? Est-ce qu'on va voir des choses que vous avez appréciées, vous?
Alors, je peux en donner deux.
Oui, allez-y.
Il y a deux disques qui viennent de sortir de deux chanteurs qui sont quasiment mes chanteurs, enfin voilà, qui se classent très haut dans la liste de mes chanteurs préférés. Il y a Pierre Lapointe qui sort un disque qui s'appelle Chanson d'amour démodée pour cœur abîmé, je crois.
Oui, quelque chose comme ça.
Attendez,
il était l'invité de la balade hier. Vous pouvez écouter ou réécouter sur franceinter.fr.
Voilà, c'est ça.
Pendant que Vincent pianote sur son
téléphone. 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Magnifique album, extraordinaire, avec une chanson notamment qui s'appelle Comme les pigeons d'argile. Sur sa maman.
Oui, l'Alzheimer de sa mère.
Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment... on a l'impression que c'est extraordinairement facile d'écrire des chansons quand
on écoute. Il a mis 6 mois à l'écrire.
Ah ben voilà, c'est ça. Mais ça, c'est toute la beauté de... On a l'impression que ça coule de source et en fait, c'est un labeur fou. Et l'album de Mathieu Bougartz qui s'appelle Grand Piano, pareil, c'est vraiment le retour de Mathieu Bougartz et de ses textes si délicats, si beaux, si fins et de sa voix extraordinairement sexy.
Vous savez qui est son parrain dans la chanson?
À Mathieu?
Ouais.
Non?
Dick Hanegaard.
Ah ouais, ah voilà. Ouais, trop bien, ça m'étonne pas.
Il y a une filiation.
Ouais, c'est vrai.
Julien Alvarez, terminez votre verre d'eau et donnez-nous votre conseil, s'il vous plaît.
Alors j'ai peur de ne pas être très original. En tout cas, je vais faire de la pub pour quelqu'un qu'on n'a peut-être pas besoin. C'est Alexis Michali qui l'avait fait. Donc sa première pièce, c'était une pièce qui m'a beaucoup parlé. C'était Le Porteur d'Histoire, qui se joue encore maintenant.
Un succès incroyable.
Incroyable. Je pense que les premières œuvres, elles ont toujours un truc très personnel et très fort, parce qu'elles ont été mûries, je pense, pendant un certain temps. Et celle-ci parlait de trésors, de littérature, de voyage. Enfin voilà, ça cochait beaucoup de cases en ce qui me concernait. Donc c'est vrai que elle a une place particulière, moi, dans mon petit panthéon personnel.
Qui est venu juste pour montrer sa tronche à la télé et aura surtout montré qu'il n'y avait rien dedans? Top chrono. Quel savant grec serait sorti de son bain en hurlant Eureka?
Chimène
Badi? Non, Archimède.
C'est dur, Vincent. Hein.
Bah, fallait vous inscrire à Koh-Lanta. Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
Voilà, je voulais qu'on vous entende dans le maillon faible.
Encore
à la place.
Du jeu, encore un jeu.
Encore du jeu, parce que vous le faites avec beaucoup d'humour et beaucoup de sérieux et une vraie fausse méchanceté.
Ouais.
Et vous déstabilisez un peu les personnes invitées.
Oui, ça leur fait du bien, ça leur fait les pieds. Ils sont toujours hyper bien accueillis, les vedettes partout à la télévision. Là, c'était l'occasion de faire l'inverse.
Et en vous voyant dans deux spectacles de Lagarce, je me disais, il amène Vincent Dedienne par sa popularité, par le fait qu'il soit capable aussi de faire le maillon, de présenter le maillon faible, il amène du monde à Lagarce. Et il y avait plein de jeunes autour de moi. Alors certes, il est étudié à l'école, mais il y a aussi ceux qui vous regardent à la télé, ceux qui regardent le maillon faible. Et c'est formidable de pouvoir amener un autre public au théâtre de Lagarce.
Ça me fait plaisir. Ça me rappelle que j'étais allé voir Philippe Noiret qui disait les contemplations au théâtre de Mâcon et que les places étaient très peu chères et que ça m'avait permis d'en prendre et d'y aller. Et moi, j'étais allé vraiment voir l'acteur des Ripoux. Je connaissais pas Victor Hugo, les contemplations, je n'avais jamais entendu parler, j'avais jamais entendu parler de Léopoldine, de tout ça. J'étais vraiment allé voir l'acteur populaire des Ripoux que j'adorais et j'étais reparti avec Victor Hugo.
Mmh.
Ouais.
Donc le Maillon Faible joue deux spectacles de la Garce au Théâtre de l'Atelier à Paris, Vincent Dedienne, du jeudi au samedi à 19h. Il ne m'est jamais rien arrivé, c'est le journal, et jusqu'au 22 mars, juste la fin du monde. Les deux sont mises en scène par Joanne Hibert. Lisez la Garce aussi aux éditions des Solitaires Intempestifs. Merci d'être venu, Julien Alvarez. Vous racontez l'aventure de la Chouette d'Or, cette chasse au trésor que j'ai découverte d'ailleurs grâce à Vincent Dedienne qui vous a invité. C'est aux éditions du Trésor. Lucie Lemarchand a réalisé cette émission. Louise Tempero, Virginie Rouzic, Irma Daniche m'ont aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui à la technique Élise Christophe. Samedi prochain, la balade est celle de Clou. Dimanche, le Grand Atelier accueille Leïla Slimani. Les deux rendez-vous sont à 17h sur Inter. Vous nous retrouvez, s'il vous plaît, sur Facebook, Instagram et Blue Sky. Dans un instant, Thomas Legrand, enquête de politique avec au programme ce soir, Thomas.
Bonsoir Vincent. Ce soir, deuxième volet du lepénisme après le jean-marisme, le marinisme et le marionisme.